RTL, le livre du jour.
Le livre du jour s'appelle « Brassens l'appelait Socrate », un livre consacré à Jacques Canetti, révélateur de talent. Alors le nom ne dit peut-être rien aux plus jeunes qui nous écoutent. Tout à l'heure, on avait un auditeur de 16 ans, mais on va avoir au téléphone dans un instant Françoise Canetti, sa fille, qui avait 5 ans quand elle était dans les coulisses du théâtre des Trois Baudets et qu'elle voyait son père sélectionner, choisir les chanteurs qui allaient passer sur scène et enregistrer les disques. Elle raconte son papa, révélateur de talent, l'homme qui a révélé et Boris Vian, et Brassens, et Brel, et Guy Béard, et j'en passe. On donnera toute la liste avec Françoise Canetti dans un instant quand on l'aura au téléphone. Mais elle raconte, par exemple, qu'en 1955, lorsque Boris Vian est insulté chaque soir par les anciens d'Indochine qui sont dans la salle et qu'il chante la fameuse chanson « Le déserteur », eh ben, il y a un humoriste qui fait partie du même programme qui le défend chaque soir face à ses détracteurs. Quel est l'humoriste qui fait partie de la même tournée à cette époque ?
De Vos, Raymond De Vos ?
Raymond De Vos, non.
Fernand Reynaud ?
Fernand Reynaud, bonne réponse de Florian Gazan. Bonjour Françoise Canetti.
Bonjour Laurent Ruquier, bonjour à tous.
Ça vous amuse cette anecdote?
Ah oui, c'est amusant que Florian Gazan connaisse le nom de Fernand Reynaud comme la personne qui va effectivement défendre tous les soirs Boris Vian.
Et c'est une amitié qui naît entre l'humoriste et évidemment l'écrivain, chanteur, poète Boris Vian. En 1955, vous étiez déjà là, vous, Françoise Canetti?
Mais oui, écoutez, j'avais 7 ans et je me souviens très très bien. Vous savez, je me souviens surtout très bien du rire de Boris Vian. Du rire de Boris Vian au théâtre des Trois Baudets, lorsqu'il ne chantait pas, lorsqu'il était dans les coulisses, lorsqu'il voyait tous ses copains, et puis soudainement, lorsqu'il a commencé à chanter, à défendre ses propres chansons, à partir du 1er janvier, 5 janvier 1955, c'est devenu un autre personnage. Sur scène, il était tétanisé par le trac. Et ce personnage vivant, amusant, fantasque, qui faisait sans arrêt des jeux de mots, était sur scène un personnage complètement différent.
Alors on retrouve dans votre livre évidemment ceux qui ont fréquenté les Trois Baudets ou qui ont enregistré des disques chez Canetti, chez votre papa, alors Piaf, Trainé, Aznavour, Brel, Vian, Gainsbourg, Michel Legrand, Brassens, Reggiani, Félix Leclerc, il a aidé à faire reconnaître le talent de Félix Leclerc, y compris au Québec d'ailleurs, Jeanne Moreau et plein d'autres, on va pas tous les citer. Brassens l'appelait Socrate. Alors pourquoi, vous le racontez dans le livre, mais pour nos auditeurs, vous allez évidemment le raconter et le résumer. Pourquoi, effectivement, Georges Brassens s'appelait Jacques Canetti, votre papa, Socrate?
Socrate, c'est la maïeutique, c'est l'art de poser des questions. Et mon père était un directeur artistique qui ne dirigeait pas ses artistes. En fait, il les dirigeait en leur posant des questions et en les amenant à réfléchir et à trouver eux-mêmes les réponses. Voilà, d'où le surnom de Brassens.
Et il disait, votre papa, si ça marche ici aux Trois Baudets, ça marchera partout, parce que c'était une salle difficile pour les artistes.
Oui, c'était une salle très difficile parce que c'était pas un cabaret, c'était un théâtre. C'était un lieu où les gens allaient écouter, voir des artistes qui n'étaient pas connus.
Vous dites que c'était la formule sans fumer ni boisson, contrairement aux autres cabarets où on pouvait fumer et boire.
Voilà, on ne pouvait pas fumer, on ne pouvait pas boire, on était assis dans une petite salle de 247 places et on assistait au début d'artistes inconnus, voire même méprisés dans leur époque.
Et alors Jacques Canetti a donc été en avance sur son temps en découvrant tous ces artistes, mais il avait cette particularité d'être à la fois en avance et d'être toujours en retard.
Oui.
Non mais c'est vrai,
oui,
c'est, vous le racontez dans le livre.
Ah oui, tout à fait.
Oui, j'ai l'art de résumer les choses, je connais, mais c'est ça quand même.
Ah oui, tout à fait. Mon père avait une vision un petit peu fantaisiste de l'heure, il était tout le temps en retard, il faisait attendre les gens, ou alors parfois il arrivait tout à fait en avance, mais il avait des goûts, ses goûts avaient parfois 10 ans d'avance, 15 ans d'avance, ce qui fait que, voilà, il soutenait des artistes qui choquaient en leur temps, mais qui sont devenus aujourd'hui les monuments, en quelque sorte les monuments de la chanson française.
Il n'aimait pas Johnny Hallyday.
Non, c'est pas vrai.
Ah.
Non, c'est pas du tout vrai, c'est tout à fait faux.
Alors.
Non, il n'aimait pas qu'une maison de disques qui était la sienne, au demeurant Philips, rachète Johnny Hallyday à Vogue. Il considérait que son métier n'était pas de racheter des artistes, mais au contraire de les faire connaître et de les faire éclore. C'est ça qui a créé, si vous voulez, ce malentendu. Les gens ont pensé qu'il n'aimait pas Johnny Hallyday, mais non, il n'aimait pas le système qui allait se mettre en place, qui était de racheter des artistes.
Ouais, il n'aimait pas trop non plus les fans de Johnny. Vous racontez quand même qu'un soir où il passe à l'Alhambra Maurice Chevalier, il clôt la première partie de Raymond Devos. C'est Raymond Devos qui est en vedette. Johnny Hallyday passe donc en première partie. Il y a tous les copains de Raymond Devos dans la salle, mais il y a aussi évidemment les fans de Johnny, déjà à l'époque, présentés comme le Elvis Presley français. Et les jeunes qui sont dans la salle de l'Alhambra vont casser les fauteuils et ravager plusieurs rangs de gradins. Et là, évidemment, votre papa est choqué parce qu'il dit « on faisait ça à une époque, mais on faisait ça pour des raisons politiques. Quand on cassait des fauteuils, c'était pour Le Déserteur ou pour d'autres chansons qu'il méritait, mais pas pour des chansons comme Souvenir, Souvenir ou Laisse les filles. »
Ah oui, effectivement, c'est-à-dire on saccage l'Alhambra Maurice Chevalier, que Jeanne Berthaud, qui était la directrice de l'Alhambra, avait complètement fait refaire. Et donc cette salle est saccagée par un public qui s'ingénie à saccager des fauteuils. Il n'y avait absolument aucune raison, et ça ne choque pas que mon père, ça choque tout le métier.
On sent que vous avez une tendresse pour Guy Béard, dont on n'a pas parlé encore, puis après on laissera à nos auditeurs le soin de découvrir l'intégralité de votre livre. Pourquoi Guy Béard plus qu'un autre?
Non, enfin, Guy Béard, ça fait partie des trois B que mon père adorait, Brassens, Brel, Béard. Je trouve que Béard est très méconnu, très oublié aujourd'hui. C'est un homme qui faisait de magnifiques chansons. Si vous écoutez toute l'œuvre de Guy Béard, vous allez voir qu'il y a, une cinquantaine de tubes. Je trouve qu'on devrait, de temps en temps, quand même réécouter Béard. C'est magnifiquement écrit, et puis les mélodies sont tapent dans l'oreille.
Guy Béard, Jacques Brel, Georges Brassens, les trois B. Non, Bruel, c'est le quatrième B, mais quatrième B, c'est
beaucoup aussi.
Quatrième B, c'est la classe d'après, vous voyez.
C'est la classe d'après.
Et je me souviens que Canetti avait aussi produit un disque de La Voix Humaine avec Simone Signoret, c'est ça?
Ah, j'entends Michel Faux. Oui. Oui, bah, bien sûr, mais vous avez une mémoire formidable, Michel Faux.
Non, j'ai le disque.
Vous avez le disque, c'est un des plus beaux disques, c'est un des plus beaux disques que mon père a produit. C'est Simone Signoret en 1963 dans La Voix Humaine de Jean Cocteau. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Serge Reggiani, qui va frapper à la porte de Simone Signoret, parce que il sort d'un film qu'il a épuisé, un film qui s'appelle L'Enfer. Il a décidé de plaquer le cinéma, et il ne sait plus quoi faire. Et quand mon père le rencontre, mon père lui dit, écoutez, avec la voix que vous avez,
Vous devriez chanter.
Et vous savez quelle est la radio qui va passer sa première chanson?
RTL.
C'est RTL qui va faire un concours avec Serge Reggiani, qui va passer Arthur Outamilkor, en demandant aux auditeurs, reconnaissez-vous le grand acteur qui chante cette chanson?
Et c'était Reggiani.
Et tous les auditeurs vont dire, c'est Louis de Funès. Et c'est Reggiani.
La suite, c'est dans le livre Brassens l'appelait Socrate. C'est aux éditions L'Archipel. C'est signé Françoise Canetti et c'était le livre du jour qu'elle a écrit en collaboration avec Véronique Mortaigne. Ouais.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier jusqu'à 18h sur RTL. À tous ceux qui ont mal refermé le bouchon de la bouteille du jus, et tant pis pour la